RCF.
On les surnomme les dieux du stade. Ils font rêver des millions de spectateurs lors des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques. Ces sportifs de haut niveau, dans le monde du foot ou du tennis, semblent tout posséder. Talent, notoriété, argent. Mais qu'en est-il vraiment? Quelle est leur vraie vie, faite d'entraînement, d'efforts, de compétition, de doutes, de tentations? Joël Thibault, bonjour.
Bonjour.
L'envers du décor du sport de haut niveau, vous le connaissez bien. En effet, depuis 2014, vous êtes pasteur de l'église protestante évangélique. Vous êtes aumônier du sport, accompagnant spirituellement, mais aussi humainement, des sportifs parfois très connus du grand public, comme le footballeur Olivier Giroud, ou des petits jeunes qui démarrent avec ce rêve de devenir professionnel. C'est cette vie auprès des sportifs que vous nous racontez dans votre livre « L'aumônier des champions », publié aux éditions du CERF, et que nous allons découvrir au cours de cette émission Visage aujourd'hui. Alors Joël Thibault, si on connaît tous les aumôniers d'hôpitaux ou les aumôniers de prison, on connaît moins les aumôniers du sport. Alors de quand date la création de cet engagement spirituel auprès des sportifs?
Alors auprès des sportifs, ça date d'après les Jeux olympiques de Munich, où il y a eu ce drame avec cet attentat qui a touché la communauté
israélite et israélienne. Ouais.
Donc là, à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience d'une détresse à la fois psychologique mais aussi spirituelle, parce que là, on touchait aussi un état, mais qui est connu pour le judaïsme aussi, hein, même si tous les Israélites ne sont pas pratiquants, mais voilà, il y avait quand même une revendication aussi politique et qui touchait la sphère religieuse.
Et donc ça a été une demande des sportifs d'avoir
des aumôniers
qui les accompagnent.
Et donc finalement, face à ça, il y a eu, oui, des sportifs, mais un constat du besoin d'apporter une aide, une assistance à la fois psychologique et spirituelle. Et ça a mis du temps à se mettre en place, et en 1988, officiellement, le premier service d'aumônerie multiconfession avait lieu en 88 pour les Jeux de Séoul, et après ça s'est développé. Et en France, on a eu pendant les Jeux olympiques d'Albertville, et depuis, plus rien sur le territoire français.
Et donc là, on se prépare pour les Jeux Olympiques de 2024. Et là, il y aura des aumôniers ou pas?
Exactement. Mmh. Alors, il y aura, parce que ça fait partie du cahier des charges, il y aura des aumôniers français. La question se pose encore sur la dimension internationale. Mais il y a d'autres événements sur lesquels notre association Holistic Sport travaille pour proposer cette aumônerie bien spécifique, cette aumônerie un peu privée pour ces sportifs dans le cadre d'autres compétitions. Donc il y a déjà des choses qui se font dans des clubs, avec des fédérations, avec des organisations sportives en amont de Paris 2024. Mais c'est une grande progression pour la France, on va dire, mais petit à petit, parce que dans les pays anglo-saxons, en fait, c'est depuis déjà les années 70 qu'ils ont pris en compte la dimension holistique du sportif.
Et pas seulement lors de grands événements sportifs comme des Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques. Vous dites aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, c'est beaucoup plus répandu. On connaît beaucoup plus les aumôniers du sport.
Exactement, même dans des clubs amateurs. En Australie, par exemple, il y a quasiment la plupart des clubs de sport ont un service d'aumônerie pour être vraiment un soin aux sportifs, aux familles, par rapport à des situations de détresse, par rapport à de la gestion d'émotions aussi, et des lieux de rencontre, en fait.
C'est des lieux de partage. Alors, vous, je le disais, vous êtes pasteur de l'église protestante évangélique. Les aumôniers sont de différentes religions. Il y a des aumôniers musulmans, des aumôniers bouddhistes.
Voilà. Quand on est dans les Jeux Olympiques, par exemple, ou Jeux Paralympiques, il y a une grande diversité. Il y a des aumôniers hindouistes, bouddhistes, musulmans, israélite aussi, chrétien, protestant,
catholique
bien évidemment, et puis aussi il peut y en avoir des orthodoxes. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Voilà, c'est les cinq grandes religions qui sont représentées. Et puis dans d'autres événements, des fois c'est seulement des aumôniers chrétiens, catholiques ou protestants, et musulmans, parce que c'est la grande majorité des croyants dans le monde du sport sont soit chrétiens, soit musulmans.
Alors, on va voir au cours de cette émission en détail ce que vous faites comme aumônier, parce que vous n'intervenez pas qu'une fois tous les quatre ans. C'est votre vocation même de pasteur, d'être aumônier à temps plein auprès des sportifs. Mais quelqu'un vous rencontre, vous dites « je suis aumônier des sportifs ». Comment rapidement vous présentez ce qu'est un aumônier du sport aujourd'hui ?
Alors, un aumônier, c'est vraiment une personne qui est là pour prendre soin du sportif et s'intéresser à lui dans sa dimension holistique.
Donc holistique, c'est vraiment complet,
corps,
total.
Âme, esprit, et à lui en tant qu'être humain. Beaucoup de gens approchent les sportifs pour faire des selfies. Si j'avais dû faire des selfies avec toutes les personnes connues que j'ai rencontrées, je serais beaucoup plus populaire peut-être aujourd'hui, mais c'est pas le but de signer. Les gens viennent vers eux pour des autographes, pour réclamer des billets de match, des maillots, des choses comme ça. Nous, on est là pour prendre soin d'eux, les écouter, les accompagner et puis répondre à leurs questions existentielles, à leurs demandes de prière aussi quand il y en a. Et puis, avant tout, avoir une relation. Donc, c'est de la présence auprès de ces sportifs. Des fois, il se passe des choses, des fois, il se passe rien. Ça fait partie du jeu. C'est comme un aumônier de prison ou un aumônier dans les hôpitaux. Il y a des journées qui peuvent être très, très ennuyeuses, mais on se met juste au service et à disposition des gens.
Aujourd'hui, vous êtes davantage reconnu, je ne parle pas uniquement vous, mais je dirais les aumôniers du sport, vous êtes plus facilement accrédité ou vous êtes reconnu dans les clubs, les grands clubs de foot par exemple ?
Alors, le football, c'est très compliqué pour l'instant en France. Il y en a pas. Il y a eu des discussions. Il y a l'Olympique Lyonnais qui a mis en place une salle de recueillement, pour pas l'appeler prière dans le cadre de la laïcité.
C'est la première en France.
C'est la première en France.
Comme on trouve dans les aéroports.
Exactement.
C'est multireligieux. Et là, c'est la même chose dans le grand stade de Lyon, de l'OL.
Et c'est fait normalement pour les deux équipes. Maintenant, je doute qu'une grande communication ait été faite et que les gens l'utilisent vraiment des échos que j'ai. Donc c'est un petit peu dommage si c'est juste qu'un effet de communication. Donc ça demanderait à être développé. Après, il y a des clubs dans le rugby. Dans le rugby en France, ça commence à se développer. Il y a une ouverture par rapport à ça. Lié aux influences aussi des joueurs sud-africains, des joueurs fidjiens, qui sont très très croyants, très pratiquants et qui ont besoin de ça aussi pour se rassurer et pour être dans les meilleures dispositions possibles pour pratiquer leur sport.
Vous dites se rassurer, c'est pour prier avant d'entrer sur le terrain ?
Oui, avant d'aller au combat, il y a tellement de pression, de regards, de critiques que on voit hein, même des grands personnages de la Bible, Josué par exemple, pour aller à la conquête du pays de Canaan, a eu plusieurs fois besoin d'entendre de la part de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Donc il y a besoin de ça, il y a besoin de gens qui nous encouragent, qui nous rappellent des vérités et puis qui prient pour nous.
Par contre, avant ces grands matchs, on vous demande pas de venir pour prier avec les sportifs ?
Alors, en fait, tout dépend des compétitions. Quand on est, moi, j'ai eu l'occasion de participer à la Coupe du Monde universitaire de rugby. On avait des temps avec, ça peut être avec plusieurs joueurs ou avec même des équipes, quoi, en fonction, s'il y a peut-être cette culture chrétienne qui est là. Et là, on nous demande la prière. En fait, tout dépend du contexte, de la culture, du coach, chacun. Là, on peut nous demander de prier. Mais c'est déjà arrivé dans des même des équipes françaises que des entraîneurs s'appuient sur des sportifs qui étaient croyants parce qu'ils étaient dans une situation de détresse et finalement abat la laïcité par rapport à ça et ils demandaient une prière dans le vestiaire.
Visage, Thierry Lyonnais.
Joël Thibault, avant de devenir pasteur, le sport a tenu une grande place dans votre vie. Vous avez eu ce rêve qu'ont plein de jeunes, hein, vous avez rêvé de devenir footballeur vous aussi. Ça vous aide aujourd'hui d'être passé par là, d'avoir eu ce rêve de gamin de devenir footballeur et puis de vous entraîner beaucoup pour cela ?
Oui, ça m'aide à les comprendre. Après, moi le rêve, il a su s'arrêter peut-être tôt en tant que joueur, enfin jusqu'à 18 ans, on en rêve. Après, on est rattrapé par la réalité. J'avais d'autres rêves, c'était d'entraîner et d'entraîner au plus haut niveau.
Vous avez été entraîneur.
Et donc, j'ai été entraîneur jusqu'à pas très longtemps. J'entraînais encore des jeunes dans un club de la banlieue rennaise. Donc, ça nous permet de comprendre la discipline, la rigueur, tout le travail que ça demande. Et puis, cette réalité hein, qui a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est très difficile. Et cette réalité, je me la reprends en pleine face en étant père d'un ado de 13 ans qui lui rêve encore plus fortement que moi de devenir footballeur professionnel.
Donc, comment vous vous sentez là avec votre fils qui lui veut rentrer dans ce monde impitoyable du foot, sincèrement?
Eh ben, je me sens pas complètement inquiet parce que je sais qu'il faut être à côté. Sa maman est plus inquiète, mais c'est de trouver l'équilibre et de l'aider aussi à développer d'autres passions. D'un côté, je suis très content qu'il ait une passion et qu'il se donne à fond parce qu'au moins il a une activité et pendant lui il s'entraîne 5 fois par semaine plus les matchs. Il fait quelque chose. Je préfère qu'il fait ça qu'il reste dans le canapé ou à jouer à la console. Donc il a une activité, il a ses camarades et puis il a ce rêve. Ça l'aide à se fixer des objectifs, à se projeter. Maintenant, la réalité, je vois qu'il a des capacités, que d'autres ont vu qu'il avait des capacités, mais étape par étape, je trouve qu'on met des fois trop de pression sur des jeunes, et c'est pas parce qu'on est très bon à 13 ans qu'on le sera forcément à 18 ans, et c'est pas parce qu'on est un petit peu moins bon à 13-14 ans qu'on ne deviendra pas professionnel.
Vous le dites dans votre livre, combien de jeunes ont été sacrifiés sur l'autel du sport? Combien de jeunes rêvent de devenir sportif? Et aujourd'hui, j'ai utilisé ce mot, les dieux du stade, volontairement. Aujourd'hui, un Messi, c'est le Messi. Hein, on peut faire ce jeu de mots facile. Enfin, ce sont des dieux du stade. Et les jeunes sont attirés. Et ils sont attirés par la notoriété, ils sont attirés par l'argent. Vous, en tant qu'aumônier du sport, justement, vous êtes en contact avec ces jeunes-là. Comment, à la fois, vous devez les encourager d'une certaine manière, leur donner la force d'avancer, et puis en même temps leur dire « faites gaffe les gars, c'est un miroir aux alouettes ».
Oui, après ce qui est important c'est de se rappeler qu'à la base on doit le faire pour le plaisir, c'est un talent qu'on a reçu, c'est aussi un don, moi je crois, qui nous a été donné par Dieu, on ne le mérite pas. On n'a rien fait de spécial pour l'avoir, chacun.
C'est ce que dit Olivier Giroud, par exemple, et les grands footballeurs que vous connaissez.
C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il découvre, en tout cas.
C'est un don.
Ce qu'ils apprennent, oui, c'est un don. Ricardo Kaka, Ballon d'Or, champion du monde avec le Brésil, a découvert ça. Beaucoup, hein, même disent et réalisent que c'est un don, mais ça s'arrête là. Ils ne rentrent pas dans une relation intime avec leur créateur. Donc c'est dommage, c'est avoir qu'une partie de l'histoire. Mais je pense que beaucoup se sont perdus quand ils ont eu la motivation de gagner de l'argent ou d'avoir de la notoriété.
Mais c'est ce que les jeunes recherchent. Attendez, excusez-moi, la plupart des jeunes, c'est ce qu'ils veulent.
Les influenceurs, on veut être youtubeur aujourd'hui. Limite, ça pourrait être le plan B de mon fils, c'est être youtubeur. Bon, bah, on a construit cette génération, il va falloir qu'on compose. Mais on voit que la notoriété ne rend pas heureux. On est à cette course toujours à être aimé pour ce qu'on fait. Et le défi, c'est de pouvoir être véritablement aimé pour qui on est et indépendamment de nos performances. Donc ça, c'est deux grands enseignements. Ne pas faire les choses pour l'argent. L'argent viendra. Si le talent est là, il viendra. Et puis après, de savoir pour qui on fait les choses et pourquoi. La question du moteur et des motivations intérieures sont très importantes.
Alors, je ne vais pas vous demander de nous faire tout le parcours de votre histoire. On apprend beaucoup de choses dans le livre. On découvre le monde des sportifs, mais on découvre Joël Thibault aussi, pasteur évangélique aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait finalement choisir de devenir pasteur?
Ben, je crois que j'ai pas choisi. En fait, c'était la dernière chose que j'aurais aimé faire. C'est vraiment pas mon rêve pour le coup d'être pasteur. Je pense que j'ai toujours vu ça comme quelque chose de très difficile. Moi, j'ai d'abord été aumônier auprès des jeunes et donc responsable de la jeunesse dans mon église et dans le milieu associatif du sport.
Donc en même temps, vous étiez entraîneur de foot
voilà,
et puis vous étiez
beaucoup à l'extérieur de l'église. Mais là, je vois depuis quelques années, parce que ça fait que je suis officialisé pasteur d'une église d'adultes depuis 2018. Avant, j'étais pasteur et responsable de groupes de jeunes. Mmh. Je voyais la dynamique, c'était différent. Et être pasteur, c'est vraiment pas facile. C'est un peu comme un sportif de niveau. Il y a de la critique, il y a du mécontentement, il y a des choses qui stagnent des fois, qui n'avancent pas. Après, il y a des joies aussi. Il y a des choses à mettre en place, des accompagnements, des mariages. Faire des obsèques, c'est quand même c'est pas des choses faciles à gérer, à accompagner. Donc ça, j'ai découvert ça plus tard, en fait, finalement. Et c'était loin d'être un rêve. Après, je pense peut-être grâce au compétences, aux dons que j'ai développés à travers l'aumônerie, les gens ont reconnu cette vocation chez moi et m'ont sollicité en fait.
C'est
de moi-même,
j'y
serais jamais
c'est
allé.
C'est comme pour les footballeurs, il faut avoir un don, il faut recevoir un don de Dieu pour être un bon pasteur.
Je pense, ouais, c'est une vocation, il y a des dons spécifiques pour ça. Et c'est important de travailler en équipe et d'avoir des dons qui sont complémentaires parce qu'on peut pas tout faire. Et si on n'est pas au bon endroit, au bon moment, on fait des dégâts en fait. Donc il faut ajuster. Et moi je sais ce que j'amène. Après j'amène de la vision, un dynamisme que j'ai expérimenté dans sport, motiver les troupes, aller de l'avant. Mmh. Le statu quo, moi j'aime pas beaucoup. Donc des fois il y a des églises qui peuvent ronronner, hein, sont bien dans leur petit confort quoi.
Alors Joël Thibault, où est-ce que vous étiez en 1998 pour la Coupe du Monde qui a enflammé la France et enflammé le cœur de tellement de monde?
Alors j'étais chez moi avec mes parents à regarder le match et j'ai un très bon souvenir aussi, celle de 2000, elle est vraiment particulière cette finale. Et là j'étais chez des amis et on était sortis en ville. Pour 98, j'avais pas eu le droit de sortir en ville pour fêter ça parce que j'avais 15 ou 16 ans.
Alors je vous propose un petit souvenir par une chanson bien connue qu'on a tous entendue, I Will Survive, l'hymne de la Coupe du Monde 1998. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so I'm back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Oh, you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd grumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll still lie. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. I Will Survive sur RCF pour cette émission en compagnie de Joël Thibault qui est aumônier du sport, aumônier de grands sportifs et notamment dans le monde du foot. Vous parlez beaucoup de foot hein, dans votre livre, vous êtes très proche de nombreux footballeurs. Il y a rien à dire quand on réentend cette chanson. Tous les Français qui ont vécu cette période-là, je parle pas des moins de 20 ans, mais les autres, on a tous été quand même marqués par cette Coupe du Monde 1998.
Ouais, c'est beaucoup de souvenirs parce que c'est vrai que moi j'avais 15-16 ans, c'est l'âge aussi où j'étais au plus haut niveau en foot. Donc là, c'est la période où je rêvais, on se dit bah ils l'ont fait et c'est cette première grande fête du football, vraiment là c'est ce sacre. Et puis cette chanson qui amène la résilience parce que je survivrai. Face aux épreuves finalement où la France était critiquée, personne misait dessus et puis là ils ont fait l'exploit parce qu'ils avaient ce groupe qui était soudé et puis voilà cette chanson qui a été ce fil conducteur là. Certains peut-être comprenaient bien les paroles plus en détail, mais c'est vrai ce côté faire face à l'adversité, c'est un très beau message.
Et cette adversité, les sportifs la rencontrent vraiment, les sportifs de haut niveau. C'est pour ça que je trouve ce titre incroyable, I Will Survive, je survivrai. Parce qu'il faut survivre dans le monde impitoyable de la compétition sportive. C'est un combat d'être sportif.
C'est un combat. La difficulté, c'est que c'est aussi des fois des luttes internes. Mon coéquipier est aussi mon concurrent. Et puis, je dois survivre aux critiques. Il y en a très peu qui, finalement, arrivent à tenir ce qu'on découvre, ce que j'explique dans l'aumônier des champions, dans mon livre, c'est qu'il y a des gens qui tombent en dépression, les addictions à l'alcool, à certaines drogues. Et c'est très, très compliqué. On peut reparler d'Olivier Giroud qui dure. Et encore, les gens se disent, mais comment à son âge? Mais c'est vrai qu'il y a cette fraîcheur qui est là parce que l'argent n'a jamais été sa motivation. C'est la notoriété non plus, c'est le foot qu'il aime et c'est ce qu'il fait durer. Et si on sait pas pourquoi on fait les choses et pour qui on les fait, et lui il veut jouer pour la gloire de Dieu, eh ben on s'essouffle et on s'arrête beaucoup plus vite. Et là, je pense que comme Olivier le dit, lui, il est prêt à jouer jusqu'à 40, 41 ans. Et Victor Hilton, qui a été l'un des plus vieux joueurs de la Ligue 1 de football à jouer, il était aussi animé et il est animé par la foi chrétienne. Et je pense que ça leur donne des ailes et de faire face à toutes ces critiques, parce que il faut quand même être costaud et pour faire face à toute cette adversité. Et malheureusement, certains qui se laissent avoir par le regard des autres sombrent.
Il n'y a pas de demi-mesure, on a l'impression. Alors, soit on est encensé, adoré, soit on est critiqué, mais on peut être très vite traîné dans la boue et
Mais
très rapidement.
les mêmes, en fait, ceux qui sont critiqués aujourd'hui seront adulés demain et inversement. En fait, il n'y a pas de mesure, mais c'est pour ça que ça nous dit que finalement, si, j'aime cette phrase, je crois que je la cite dans le livre, si on vit pour les éloges des gens, on mourra sous leur critique. Donc il faut savoir ne pas prendre tout ce que les gens nous disent de bien sur nous. Et non pas apprendre tout ce qu'ils disent de mauvais. Il y a des fois des choses à apprendre, des critiques, mais aujourd'hui, il y a une masse, il y a Twitter, il y a des haters de partout, mais la vérité n'est pas là, en fait.
Alors, par rapport à la notoriété qui est tellement importante aujourd'hui, qui fait rêver tellement de jeunes, on va prendre deux cas. Vous êtes avec un petit jeune qui veut démarrer, qui est pas mal, hein, qui est, je sais pas, moi je suis pas du tout un spécialiste du foot, mais qui est en qu'est-ce qu'il y a comme
c'est le plus régional,
mais il joue bien. Voilà. Qu'est-ce que vous lui dites, vous, le pasteur du sport, pour dire attention mon gars, face à la notoriété, voilà ce qui est prioritaire. Qu'est-ce que vous lui dites à ce jeune qui débute?
Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le plaisir. Déjà,
Cherche le plaisir
cherche
d'abord.
le plaisir, amuse-toi. Après, respecte les règles du jeu et une discipline. Le talent ne suffit pas. Ça, c'est aussi important, parce que beaucoup de jeunes ne s'appuient que sur leur talent. Le talent plus le travail égale succès. Le talent tout seul, à un moment donné, ça ne passera plus. Et ça, il faut qu'ils fassent attention. Et quand il y a des jeunes qui sont très talentueux, c'est facile d'être très talentueux dans sa catégorie d'âge, voire d'être surclassé. Mais quand on tombe dans le monde des adultes, ça n'a plus rien à voir. Et ça, c'est ce qui... On ne prévient pas assez cette réalité-là, qu'il y a des champions du monde juniors qui n'ont jamais été champions du monde adultes. Parce que la frontière, la barrière, la haie est trop haute et on les avait pas préparés à ça. Et quand on a baigné trop dans le succès et qu'on nous a tellement adulés, on peut devenir un enfant trop chouchouté, gâté. Et alors là, la
Et on
moindre
progresse plus
défaite, on
là.
explose en vol.
Même cas de figure, vous êtes, allez, je dis pas Olivier Giroud, cette fois-ci on va le laisser un peu de côté, mais vous êtes avec une autre grande star du foot qui devient très célèbre, qui est très sollicité, et ça vous en parlez, des sollicitations incessantes que rencontrent ces stars. Qu'est-ce que vous lui dites, vous, le pasteur évangélique, par rapport à la notoriété?
Bah, je lui rappellerai une chose, c'est que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute, et que en fait on peut arriver haut sur un instant, mais on peut tout perdre l'instant d'après, et qu'il faut se méfier. Après les plus grandes victoires, c'est souvent là que viennent les plus grandes défaites personnelles. On peut juste regarder au roi David, qui malheureusement, alors qu'il avait tout, il a été commettre le péché d'adultère à ce moment-là, et ça a détruit beaucoup de choses dans sa vie, et ça a eu beaucoup d'incidences sur sa vie familiale et sur son héritage. Donc, il faut être très prudent et préserver son cœur dans le succès. Et la clé, c'est l'humilité et de regarder à Jésus.
Joël Thibault, une question qu'on vous pose assez souvent, y compris dans les milieux de vos églises, c'est finalement, est-ce que le sport et la foi sont compatibles?
Ah oui, ça c'est la grande question, parce que effectivement, on oppose souvent cette réalité, et c'est bien, ça montre qu'on connaît les paroles de Jésus et la Bible qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et donc,
Bah comment est-ce que je peux
comment on
être
peut s'aimer
en
si
compétition
je suis
avec
en
l'autre?
compétition? Mais ça pourrait être valable dans tout le domaine, hein, dans le travail, dans les finances, dans les banques. Ceux qui travaillent pour Peugeot et ceux qui travaillent pour Renault et puis ceux qui travaillent pour Toyota, ils sont pas en concurrence. Donc forcément, ça fait partie. Mais c'est de respecter les règles du jeu, jouer avec intégrité et respecter l'autre qui est en face de moi. J'ai pas besoin de haïr l'autre pour donner le meilleur de moi-même. Et ça, c'est une découverte. Moi, je l'avais expérimenté. J'ai des sportifs où j'explique qu'ils ont été motivés par la colère. Mais c'est pas la meilleure des motivations. Être motivé par l'amour, c'est la meilleure des motivations pour donner le meilleur.
C'est facile à dire, mais comment faire? L'autre sur le terrain, c'est mon adversaire. C'est le mot qu'on utilise, c'est mon adversaire. Je dois le battre.
Ouais.
Comment faire pour que mon adversaire soit aussi mon frère? C'est un peu ça, dans la vision chrétienne.
C'est ça, exactement. Eh ben moi, je pense qu'on doit changer les discours. L'essentiel, c'est de donner le meilleur de soi. Et nous, le point de vue, en tant qu'aumônier chrétien, c'est de dire que notre motivation, elle doit être d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes.
Mmh.
Donc, il faut apprendre à aimer l'autre. Ça ne veut pas dire que je ne rentre pas sur un terrain pour ne pas gagner, mais je rentre sur le terrain pour donner le meilleur de moi-même. Et la victoire est quelque part, ou la défaite, entre les mains de Dieu. Il y a une part d'incertitude, il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais je vais plutôt travailler sur mon caractère, sur la gestion de mes émotions et comment je gère la victoire ou la défaite. Et je peux me réjouir pour celui qui réussit. Et ça, c'est quelque chose. Mais c'est, en fait, c'est la transformation de l'intelligence et c'est seulement possible par le miracle du Saint-Esprit.
Il y a une phrase de saint Paul que j'ai trouvée, je ne vais pas faire le malin, je ne suis pas aussi bon en Bible que vous, vous citez souvent, vous citez les versets, vous connaissez par cœur la Bible. Et il y a dans l'épître aux Corinthiens, non, pardon, l'épître aux Philippiens de saint Paul, il y a cette phrase « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur ». Quand un footballeur, je dis un footballeur, mais ça peut être un tennisman ou un rugbyman, entend cette phrase, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, il peut continuer à être sportif.
Et oui, mais c'est tout le travail, en fait. C'est tout le travail sur la motivation. Je me rappelle d'un rugbyman qui prenait très longtemps à se préparer avant un match dans la prière pour éprouver les motivations de son cœur. Et son objectif, c'était de se mettre au service des uns des autres. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est mis au service des autres. Et souvent, quand on fait quelque chose, on veut se mettre nous en avant et en valeur. Et le monde du sport fait de plus en plus ça en mettant les statistiques. Meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur ceci, meilleur cela. Et on ne met pas en avant tous ceux qui ont fait le sale boulot pour faire briller ces joueurs-là. On est devenu dans des sports collectifs, sont devenus individualistes. Et il nous faut redécouvrir de se mettre au service des uns des autres. C'est ce que ce texte nous dit. Parce que ce texte nous dit, après, Jésus, qui était l'égal de Dieu, le Père, s'est dépouillé, en fait, n'a pas regardé à cette égalité. Ça ne veut pas dire qu'il a renié qui il était. Et j'aime cette définition de C.S. Lewis. L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, mais c'est penser moins à soi.
On a tous l'image de ce coureur qui, au moment de la victoire, hein, proche de la ligne, je me souviens plus s'il faisait un marathon ou si c'était une course au long cours, a vu un de ses collègues qui est tombé et qui pouvait plus continuer. Et il s'est arrêté pour l'aider à passer. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Il l'a aidé à passer la ligne d'arrivée avec lui, alors qu'il aurait pu gagner la course. C'est exceptionnel, ça, quand même. C'est pas ce qu'on voit dans le sport.
C'est malheureusement exceptionnel. Mais quand on le voit, on voit que cet exceptionnel touche le monde et ça buzz, en fait. Parce que ça nous ramène à notre humanité, à ce qu'il y a de plus beau, en fait, c'est de s'aimer les uns les autres. Et là, cette personne, bah, ils ont fini premier ex aequo, hein, je crois, dans cette histoire. Et finalement, être avec l'autre, partager ce moment était plus fort que gagner seul. Et je pense que c'est une belle leçon de vie et d'humilité.
Il y a un film que vous aimez beaucoup, je me souviens qu'il m'avait bouleversé, un film un peu ancien maintenant, qui s'appelle Les chariots de feu. Et là, on voit aussi le tiraillement pour un homme très croyant. Alors, je ne sais pas s'il était évangéliste.
Évangélique, ou
baptiste ou adventiste, je ne sais pas. Il était tiraillé entre respecter le jour du Seigneur et faire une course. Et ça, c'est une problématique que vous rencontrez dans vos églises. Parfois, il y a des adventistes qui vont vous dire « Non, non, moi, je peux jamais courir jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi. »
Eric Liddle n'était pas adventiste, sinon il aurait pu courir le dimanche. Les adventistes, en fait, ont leur culte le samedi. Ça pose des problèmes. Je connais un rugbyman qui avait fait marquer dans son contrat qu'il voulait pas jouer le dimanche en top 14 en France. Il n'est pas resté très longtemps en France, pas forcément été bien vu. Je pense qu'il faut accepter les règles du jeu. C'est comme une infirmière, elle va travailler le dimanche, elle a des tours de garde. Ça fait partie pour le bien-être de la société.
Vous comprenez ça, des sportifs qui disent « Non, moi, au nom de ma religion, ne peux pas... »
À son époque, je le comprends et je pense que ça doit venir d'une conviction personnelle. Ça lui a offert aussi une position de témoignage et ça montrait qu'il avait une très grande confiance en Dieu et il était prêt à sacrifier sa victoire sur 100 mètres et finalement il a gagné sur 200 ou sur 400 et donc ça a montré aussi la fidélité de Dieu. C'est une question de priorité. Je crois qu'aujourd'hui on a de moins en moins de priorités et notamment l'église est de moins en moins une priorité dans le calendrier des gens et l'église c'est quand même ce temps qui est mis à part où on s'arrête, cette notion du sabbat, nous on le vit pas comme dans le judaïsme où c'est 24 heures où ils ne font plus rien. Nous c'est libérer une matinée pour se réunir autour de la parole de Dieu, chanter, louer, le faire dans la joie et rencontrer d'autres personnes. Si aujourd'hui, en 2023, on n'a plus le temps de faire ça, alors notre société va mal, parce qu'on ne sait plus s'arrêter, on est dans l'activisme.
On sent bien le pasteur et le passionné de sport chez vous. Il y a cette fameuse remarque autour du sport qui est devenu une nouvelle religion. Dans votre livre d'ailleurs, vous dites « Comme pour moi autrefois, le sport est devenu une religion, un véritable culte pour beaucoup de personnes, et c'est bien là que réside la tension. » Comment comprendre cette espèce de fascination qu'il y a aujourd'hui dans le sport, ces assemblées, toute cette terminologie presque spirituelle qu'on peut utiliser dans le sport?
Sûrement parce qu'à un moment donné, l'église a été ennuyeuse et elle était devenue trop rigide. Elle a peut-être pu laisser de place aussi à l'émotion, à une forme de liberté, à une forme aussi de surprise, où tout est calé de A à Z, comme sur du papier à musique. Le sport procure une forme de transcendance, d'incertitude, d'émotion forte, intense, bonne, moins bonne. Et ça, les gens ont recherché ça finalement avec la sécularisation. Ils se sont orientés vers d'autres formes de plaisir. Et il faut retrouver un équilibre aujourd'hui parce qu'en fait, on voit que les gens qui nous procurent du plaisir au stade, de cette communion qu'il y a, de ces hymnes, de ces chants, ces sportifs eux-mêmes qui sont adulés, sont eux-mêmes en recherche de gloire, en recherche de Dieu, en recherche d'amour. Donc en fait,
tout s'entrecroise
et ça nous montre que ce n'est pas la solution non plus, mais c'est pas pour autant qu'il faut renier le sport.
Visage, RCF.
Joël Thibault, nous poursuivons sur RCF cette émission Visage en votre compagnie, vous qui êtes pasteur de l'église évangélique et également aumônier du sport. Alors, en tant qu'aumônier du sport, de quelle manière vous apportez un soutien spirituel et mental? Parce que c'est les deux, hein, vous le dites dans votre livre, il n'y a pas que ça, il y a le spirituel et le mental. De quelle manière vous faites? Est-ce que, alors d'abord, c'est eux qui vous appellent, c'est eux qui viennent vous voir, ils vous téléphonent, ils vous disent « Écoutez, moi je suis sportif, je suis rugbyman à tel endroit », mais aussi des sportifs de sport pas du tout connus, hein, des
oui. sports... Alors, c'est intéressant, j'ai accompagné pendant longtemps un joueur de l'équipe de France de...
Hockey sous-marin, c'est ça?
Hockey subaquatique, ouais, c'est ça.
J'avais jamais entendu parler de ça.
Donc ouais. c'est très particulier. Mais ça existe et ils ont les mêmes défis. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que je sois aumônier accrédité dans des grandes compétitions. Et là, je peux rencontrer des sportifs que je connais pas du tout. Ça va être des rencontres. Il y a le lieu d'aumônerie. Ils peuvent passer devant. On se rencontre. Et là, c'est un contexte différent. Après, il y a aussi ce rôle que j'ai d'accompagnateur spirituel, de mentor pour ces sportifs, où à la fois, il peut y avoir une forme de préparation mentale, d'accompagnement, de conseil.
Ils sont tous de votre église, l'église évangélique?
Et non, je suis sollicité aussi par des sportifs qui sont catholiques, même des musulmans. Certains musulmans viennent vers moi parce qu'ils ont entendu peut-être le bien que je procurais aux sportifs, dans le sens de la bienveillance que j'avais auprès d'eux. Et puis aussi, Ouais, c'est eux, c'est cette démarche de ils me contactent. Après, il y en a certains que je vois à la télé ou sur les réseaux sociaux et je prie pour eux. Et en priant, en fait, il y a une rencontre qui va se déclencher et peut-être plusieurs mois, plusieurs années après, des circonstances vont faire que je vais les rencontrer. Et puis, dans les rencontres, il y a des discussions. Et puis, voilà, les gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin prennent mon numéro et on échange. Et après, on prend des temps où on fait notamment des études bibliques.
Alors, il y a un sujet qu'on va aborder ensemble, c'est lorsque vous êtes avec des sportifs qui, eux, ont déjà percé. Ils sont professionnels. Il faut gérer ce qu'on appelle le succès. Parce qu'ils savent que c'est éphémère. Ils en sont conscients ou pas, au fait, que le succès est éphémère et qu'ils vont peut-être être sur le haut du podium pendant quelques années, mais après, ils vont vite descendre.
Après, c'est pas forcément le succès. C'est pas forcément à ça qu'ils regardent tout de suite. Enfin, c'est plutôt à la carrière et ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Et là aussi, il peut y avoir une forme d'addiction. Quand en plus le corps nous demande d'arrêter parce que il a beaucoup souffert, et là il faut trouver aussi l'équilibre parce que ce corps il faut en prendre soin et le sport des fois le malmène quoi,
use le corps
plus rapidement. Et donc là il faut aider le sportif à réaliser qu'il n'a pas reçu qu'un seul don. Et souvent, le sportif a une mauvaise estime de lui-même et s'est réduit au don lié à son corps. Alors qu'il a développé plein d'autres compétences et il a plein d'autres dons qu'il doit aussi découvrir. Et puis, se rappeler que si la moyenne d'âge est à peu près de 80 ans, la carrière sportive, elle, est de 20 à 25 ans. Donc, on a toute une vie après.
Et ça, vous en parlez
J'essaye de les sensibiliser très jeunes à ça. Parce que une carrière peut s'arrêter très vite. Et puis aussi, ils ont beaucoup de temps libre, mine de rien. Et comment ils utilisent leur temps. Et des fois, il faut savoir nourrir un corps sain dans un esprit sain. Mm-hmm. Donc, savoir se former à d'autres choses.
Soyons clairs, hein, vous le dites, il y a un gros problème, par exemple, avec l'addiction pornographique, le visionnage de films pornographiques aussi. Hein.
Oui, malheureusement. Après, ils sont beaucoup isolés, seuls. Il y a aussi une culture, la pression du groupe. On découvre ces choses-là, malheureusement, dans les équipes. Hein, l'effet de collectif, la découverte de son corps. Et puis après, ça peut basculer, malheureusement, dans des orgies, dans des choses qui sont pas très catholiques, quoi.
C'est ce qu'on entend malheureusement aussi assez fréquemment dans les milieux sportifs. Il y a le sport et puis il y a tous les à côté qui sont quand même un peu glauques du monde du sport, avec les sorties, avec la drogue, avec l'alcool, avec la pornographie, les prostituées. C'est quoi ça, ce phénomène-là? C'est lié à cette notoriété et à cet argent qui coule à flot?
C'est un cocktail. Je pense qu'on a la même chose dans le monde politique. C'est argent, pouvoir, sexe. Il y a aussi l'effet testostérone, besoin de se dépenser. Mais moi, je crois que la clé essentielle de tout ça, c'est qu'il y a une recherche d'amour. Il y a besoin d'aimer, il y a besoin d'être aimé. Et souvent, le sexe, c'est un rapport à ça. J'explique dans le livre que des sportifs, souvent, après un moment difficile, ont besoin de trouver du réconfort. Et des fois, c'est auprès de prostituées qu'ils vont le trouver. Mais ce n'est qu'illusoire, qu'éphémère. Et il y a une invitation à se laisser aimer par Dieu, à se ressourcer, à prendre du temps. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc ils vont chercher dans la mauvaise direction. Et parce que ça les emmène toujours dans plus loin, plus loin, plus loin. Et de voir ces scandales qui ont éclaté ces dernières années, ça touche, ça salit des familles, ça salit des clubs, ça salit leur vie aussi.
Alors, je vais être franc avec vous, j'ai été, complètement fasciné par le vocabulaire utilisé dans la chanson de la dernière Coupe du Monde. Freed from Desire, de la chanteuse Gala. Mmh. Et ceux qui ne connaissent pas l'anglais vont entendre cette chanson, on va l'écouter dans un instant. D'accord. Et elle dit ceci, « Mon amour n'a pas d'argent, il a de fortes convictions. Mon amour n'a aucun pouvoir. » Il a ses solides croyances. Mon amour n'a pas de célébrité. Il a ses solides croyances. Les gens veulent juste de plus en plus l'esprit et l'essence purifiés. comment ces footballeurs-là qui étaient rassemblés pour cette Coupe du Monde dans un pays que vous avez boycotté, hein, vous n'avez pas voulu aller au Qatar,
ils se sont
rendus compte des paroles de cette chanson, libérées du désir, alors que l'image qu'ils donnent, ce sont des gens bourrés de fric, qui ont plein de désirs, qui ont des grosses voitures. Comment vous expliquer le choix de cette chanson ? C'est de l'inconscient, là ? Freud ?
Je reviendrai et je demanderai à Olivier Giroud, je lui poserai la question.
Qui a choisi cette chanson-là ? Et pourquoi ?
Il y a des effets de mode. Il y a l'instrument, il y a le rythme, il y a le phrasé. Effectivement, elle est très forte. Je pense qu'il y a quelque chose d'inconscient. Mais ici, je pense que ça nous ramène à ce besoin de l'amour et d'être aimé.
On va écouter cette chanson Freed from Desire de Gala. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from Desire sur RCF, cette chanson qui a été entonnée, chantée avec enthousiasme par tant de footballeurs pendant la Coupe du Monde du Qatar. Vous me disiez, je crois savoir la off, hein, pendant qu'on écoutait la chanson, je crois savoir pourquoi ils ont choisi, pourquoi alors ?
Bah, c'est comme avec I Will Survive, il y avait la, 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 et puis là, là, na, na, na.
Donc c'est juste pour le rythme, quoi.
C'est pour le rythme.
C'est tous les paroles,
non,
ils s'en foutent.
C'est vrai que c'est quelque chose qui fédère, il y a ces choses simples à retenir, mais est-ce qu'il y a une portée prophétique ? J'ose l'espérer.
Je pense que
vous m'avez donné un sujet de conversation avec les joueurs de l'équipe de France la prochaine fois.
Mon amour n'a pas d'argent, il a de fortes convictions. Il faudra leur demander si c'est ça pour eux. Mais il y a quand même des footballeurs, et vous en citez quelques-uns. Je parle souvent des footballeurs parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent. Les tennismans aussi, mais vous les côtoyez moins. Vous côtoyez des rugbymans, mais ils ont quand même pas les mêmes salaires que les... l'argent, là, comment on gère ça quand on est pasteur ? Parce que, normalement, un membre d'une église doit verser la dîme.
Non, normalement. Ah, moi, je suis pas du tout pour ce principe.
Attendez, je l'explique pour ceux qui connaissent pas ça. C'est pas comme chez les catholiques, chez les protestants. Normalement, un protestant doit verser la dîme. Donc, je me suis dit, si un footballeur qui gagne 500 000 euros par mois, mais c'est pas le top, hein. Ouais. C'est pas mal, mais c'est déjà bien.
Il y en a beaucoup qui gagnent beaucoup moins.
Il y en a qui gagnent moins. Mais bon, allez, on prend un footballeur qui gagne 500 000 euros. S'il donne la dîme, il donne 50 000 à son pasteur, à son église. Comment on gère ça?
Ça dépend des cultures. Alors, je comprends pas pourquoi les catholiques ne feraient pas la même chose si on a la même Bible et les mêmes textes. Donc ça, il faudrait revoir. Non, c'est un principe. Le principe, c'est la générosité. Et alors, après, il y a des cultures, et je le dénonce dans le livre. Moi, personnellement, je touche aucune dîme de personne.
On vous l'a proposé.
On me l'a proposé, et je refuse. Par contre, je veux faire attention à un autre écueil, qui est plus un écueil de l'Église catholique, mais qui arrive aussi dans nos milieux protestants, c'est la pauvreté. Parce qu'on serait engagé au service de Dieu, on devrait faire vœu de pauvreté. Je pense que c'est pas juste, on doit aussi vivre, tout ouvrier mérite salaire, la parole le dit, Jésus lui-même l'a dit, mais on donne gratuitement, on a reçu gratuitement, on donne gratuitement, mais il y a un travail, il y a une réalité qui est là, et je sais que ça arrive dans certaines cultures, notamment en Afrique, où il peut y avoir des abus, où, oui, des sportifs vont donner la dîme directement au pasteur. Moi, je trouve ça très, très dangereux, parce que c'est l'association cultuelle qui devrait gérer l'argent, et après, il y a un conseil d'administration, c'est ce qui se passe pour moi, il y a un conseil d'administration qui établit le niveau de salaire, d'indemnité, en fonction d'une vie de famille. Moi, j'ai quatre enfants, c'est pas la même chose que quand j'étais célibataire, où je l'explique, je pouvais vivre avec 1000 euros par mois, je m'en fichais. Aujourd'hui, je peux pas vivre avec 1000 euros par mois en ayant quatre enfants. Et
vous n'êtes pas payé par la dîme alors des footballeurs que vous accompagnez.
Non, je ne suis pas payé par la dîme. Exactement. Je leur demande rien. C'est un service qui est gratuit. Si ils veulent le faire,
ils doivent pas bien comprendre. Eux, ils achètent tout, non? Leur coach mental, on le paye.
Ils ont même du mal. Enfin, il faut savoir que le monde du sport, il y a beaucoup de radins. C'est complexe en fait. L'amour de l'argent est quand même une grande idolâtrie. Donc c'est des gens qui sont habitués pour certains à ce qu'on leur paye tout. Même ils vont dans un restaurant parce que c'est la notoriété. Dire ah, tu fais une photo et hop ils payent pas la note pour certains. Les sponsors, on leur donne des chaussures, on leur donne des maillots, on leur donne plein de choses. Donc au final ils ont de l'argent. Enfin voilà, c'est cette phrase. Plus on gagne, plus on nous donne, et moins, enfin finalement, moins on dépense. Là où ils dépensent, oui, c'est sur les belles voitures et les vacances. Parce qu'ils ont très peu de vacances, donc quand ils en ont, bah ils mettent le paquet là-dessus, quoi, et les fringues.
Comment on peut, quand on est un grand sportif, faire le choix de témoigner de sa foi? Aussi pourquoi? Vous avez été filmé des sportifs de haut niveau, certains avec une grande notoriété, je pense encore à Olivier Giroud, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Aurélien Collin, par exemple, qui est un grand footballeur aux États-Unis, ou il y a Renfleur Okori, qui 110 mètres haies, enfin, une grande femme du monde de l'athlétisme. Ces gens-là ont accepté de témoigner de leur foi. Ça a été facile de les faire parler, ou il y a une réserve, en tous les cas en France, il y a une pudeur par rapport à la foi.
Il y en a où, alors là on parle de choses aussi qui ont été faites il y a une dizaine d'années, il y avait une pudeur.
Quand vous avez fait Esprit Saint, Corps Saint, là, les documentaires où vous demandiez à des sportifs de témoigner, c'est déjà une dizaine d'années.
2013, le premier tournage. Donc après, il sortit en DVD 2014, 2015, 2016. Pour certains, oui, ça a été difficile. Il y a des gens, on a des très beaux témoignages, pourtant, c'est jamais sorti. Parce que les gens se sont rétractés par problèmes de carrière qu'on leur reproche, qu'on les bloque. Donc il y a des peurs. Nicodème est resté longtemps caché sur le fait de sa rencontre avec Jésus. Et il s'est révélé au grand jour après
Nicodème,
la crucifixion.
C'est pas un footballeur. Hein. Pour ceux qui connaissent pas bien la Bible, Nicodème, c'était un proche de Jésus.
C'était un proche de Jésus. Donc il y a des gens qui affirment un peu plus. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt le phénomène inverse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'affirment chrétiens ou aident pour Jésus et qui ne connaissent pas Jésus et qui ne connaissent pas la foi chrétienne.
Il y a un phénomène de mode aujourd'hui de s'afficher croyant.
Et c'est une forme des fois de superstition de se dire si je me fais un tatouage d'une croix ou de la Vierge Marie ou de ceci ou cela, ça va me protéger, ça va peut-être m'aider à performer. Donc il y a beaucoup de superstitions dans le monde du sport et tout ce qui brille n'est pas or et voilà, n'amène pas forcément à une spiritualité authentique.
Vous dites, Joël Thibault, dans votre livre, qu'il n'y a pas que de la superstition, il y a aussi vraiment des pratiques occultes, y compris des pratiques de maraboutage, hein, comme on dit, de jeter
fétichisme
et pas qu'avec des joueurs africains.
Non, beaucoup. Moi, je dis aussi, il y a du syncrétisme, hein, on mélange et on retrouve ça en France, malheureusement, où on peut avoir des chrétiens qui vont voir des magnétiseurs, qui vont voir des choses un peu, pour moi, occultes, qui sont périphériques, qui mélangent la spiritualité, ces médecines-là. Et dans ces milieux-là, on peut aller jusqu'à jeter des sorts à des gens qui nous embêtent. Et donc,
c'est vrai, j'ai fait un
documentaire là-dessus. Et j'ai beaucoup d'interviews et ça a pris des années. Mais depuis 20 ans, dans le monde du sport, je constate ce phénomène-là, et c'est très alarmant et dangereux.
Vous avez tout un chapitre qui s'appelle « La face obscure du sport ». Il y a aussi la question des abus sexuels. On parle beaucoup des abus sexuels dans l'Église. Il y a beaucoup d'abus sexuels et d'abus d'autorité dans le monde du sport. Ça aussi, vous l'avez constaté ?
Malheureusement, la figure de l'entraîneur, on en a fait Dieu. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu sais, l'entraîneur dans mon club, c'est comme si c'était Dieu, mais un Dieu foudroyant, pas un Dieu aimant, en fait. Là, c'est la vision du Dieu père fouettard qui vient.
Vous le dites, il y a des entraîneurs, mais qui insultent, qui parlent mal, soi-disant pour motiver les jeunes.
Il y a des choses que j'annonce dans mon livre qui se sont révélées au grand jour ces derniers temps depuis.
Vous dites dans votre livre que tout n'est pas encore sorti et qu'il va y avoir
beaucoup de choses
qui vont sortir dans le monde de la gymnastique, dans le monde de la natation.
Tennis, natation, les sports de combat, le foot. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, sur ce côté-là. Il y a eu une omerta et je crois que il y a un grand coup de balai à faire dans nos fédérations sportives. Et il faut avoir envie de mettre les choses à la lumière. Mais moi, je prône une justice restauratrice. Que les gens puissent demander pardon de ce qu'ils ont fait. C'est aussi ce qu'on croit, la grâce, un renouveau, un nouveau départ. Ces personnes doivent être jugées, doivent faire de la prison si c'est le cas, mais elles ne doivent pas être emprisonnées dans ce qu'elles ont fait. Elles ont le droit, elles aussi, à un nouveau départ, à une main tendue. Et on voit des sportifs qui sont chrétiens, qui ont vécu ces agressions, qui sont capables de pardonner leurs agresseurs et de tendre cette main et de prier pour ceux qui ont fait ça. Et je pense que là, il y a un message d'espoir et d'espérance aussi.
Et la question du dopage, allez, dernier point obscur, la face obscure du sport, le dopage, c'est aussi une réalité. Des jeunes sont prêts à mettre leur santé en danger.
Ouais. Aujourd'hui, le dopage, il y a des nouvelles formes de dopage qui se développent et les médias en parlent pas beaucoup et c'est vraiment un sujet qui est sensible. Mais
comme quoi ?
Il y a ces formes de dopage ou de il y a ces fameuses snus, il y a ces sortes de cigarettes. Voilà, avec de la nicotine, il y a ces formes de ballons qu'on prend avec de sortes d'hélium, ces trucs-là qui nous font nous évader. Alors, je sais pas si c'est un effet dopant sur le coup, mais il y a toutes ces choses-là autour du sport qui sont très dangereux et qui sont pas détectées, en fait. Et certains médecins commencent à faire des études pour dire, on voit là, par exemple, Cristiano Ronaldo, on s'est posé la question, il a pris quelque chose dans son short pendant un match, donc on pense que c'est un chewing-gum à la nicotine, donc il y a tous les côtés Red Bull et tout ça, qui en fait, qui sont des formes de dopants.
Mais qu'ils ont autorisé, ceci.
Qu'on a autorisé, mais qui peuvent être très dangereux, pris à très grande quantité. Et c'est ça qu'on a du mal à contrôler, et des fois, il y a des gestes agressifs et violents sur des terrains qui sont dus à ces prises-là. Et je pense qu'on ferme les yeux sur beaucoup de choses.
Alors on va laisser la face obscure du sport, et j'aimerais qu'on parle des valeurs du sport. Quelles sont, selon vous, Joël Thibault, les valeurs du sport qu'il faut mettre en avant et qui permettent justement aux jeunes de s'épanouir et de s'épanouir en société ? Et que vous défendez, vous, comme aumônier.
Savoir qu'on ne se construit pas tout seul, la notion de solidarité, d'entraide, elle est importante dans le sport, se mettre au service des autres. Après, il y a tout ce qui va être aussi dépassement de soi, résilience, ça va s'apprendre, hein, la résilience, la persévérance, le goût de l'effort. Enfin, aujourd'hui, moi, quand j'étais professeur de PS en formation... On nous parlait de le goût de l'effort. Je crois que c'est un des cours qui m'a plu le plus, qui m'a passionné. Et on disait, faut donner le goût de l'effort aux élèves. Et aujourd'hui, on voit comment les professeurs galèrent on réduit toutes les distances. On baisse les bras facilement. Aujourd'hui, on donne des médailles à tout le monde. Le premier comme le dernier. Est-ce qu'on donne la notion du goût de l'effort? On récompense tout le monde. C'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle société, on est peut-être devenu trop vieux, trop bête.
Déjà, à votre âge. Dites-moi, Joël Thibault, comment vous gérez votre proximité, vous d'aumônier, avec ces stars du foot ? Et là, c'est une question personnelle, parce qu'on sait combien de personnes sont avides à être proches des stars. Vous êtes proche d'eux et proche de certains. Mmh. Comment vous le gérez personnellement ?
Bah, je pense que je le gère parce que j'ai arrêté d'idolâtrer ces gens-là et que moi, la seule personne que j'adore, c'est Jésus. C'est lui le plus important et qu'à côté, bah, tout est pâle et que j'ai conscience que j'ai affaire à des êtres humains. La plupart aussi, le fait qu'ils partagent une foi ou qu'ils viennent dans une quête de foi les rend humbles. Et donc, je suis des fois moins à côtoyer ceux qui ont le boulard. Et je vois, j'en côtoie, et je vois la différence. Et pour Olivier, c'est quand on est dans sa présence, on n'est pas dans la présence d'une star, alors que c'en est une quand même. Mmh. Enfin, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais
c'est sa foi qui le rend humble, parce qu'on dit qu'il
sa foi,
est humble.
C'est sa foi, c'est son éducation aussi qu'il ne se voit pas comme ça. Il reste abordable, il roule pas des mécaniques. Après, il sait qui il est et je pense que il doit apprendre encore en humilité comme chacun. Mais il n'y a pas ce côté je regarde de haut. Il y en a, hein, bien sûr, mais il y en a qui perdent la tête dans le monde du sport. Mais ceux-là, je ne les côtoie pas forcément. J'aimerais en côtoyer plus. Mais c'est moi, je les vois comme des êtres humains. Et du coup, j'ai arrêté de... J'ai peut-être perdu foi en eux. J'ai davantage ma foi en Dieu. Et ce qui fait que il y a certains que je rencontre en fait, je sais pas leur palmarès, donc ça nous met à un pied d'égalité. Mm-hmm. Je suis pas à la course au titre, quoi. Mm-hmm.
Et qu'est-ce que vous faites pour aider ces jeunes en Afrique ? Parce que je sais que vous avez fait des missions en tant qu'aumônier du sport en Afrique, et des millions de jeunes ne voient leur avenir, leur salut que dans le sport en Europe ou aux États-Unis.
Ben, il y a ça, c'est beaucoup de prévention, parce qu'il y en a qui sont prêts à se mettre en danger pour traverser la Méditerranée. Donc c'est aussi d'expliquer qu'en France ou en Europe, tout n'est pas forcément plus beau qu'ailleurs.
Vous leur dites ça quand vous allez sur
Eldorado,
place.
Oui. Ouais. Et puis après, beaucoup de prévention. Là, j'étais au Cameroun sur la question de l'occultisme, jusqu'où je suis prêt à aller pour réussir. Donc, question de mes valeurs. Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon fils, à sacrifier ma mère, à sacrifier mon frère pour atteindre ces objectifs? Parce que c'est des choses qui sont graves. Donc, essayer de prendre le temps de parler ces choses-là clairement, parce qu'il y aura personne qui le fera sinon. Et d'encourager à développer leurs talents, développer aussi leur football sur place. Après, s'ils sont vraiment bons, ils partiront en
repérés,
Europe.
De toute façon, ouais.
Et puis après, c'est aussi... quand le succès arrive, attention à pas griller tout l'argent, attention à pas tout renvoyer, parce que beaucoup, il y a une pression encore derrière moi, c'est un footballeur qui me partageait ça, la pression familiale où ils doivent donner 90% de leurs biens et ils ont plus que 10% pour vivre, donc là on est dans une dîme inversée, et ça met beaucoup beaucoup de pression, et je pense d'accepter aussi que oui, on peut redonner, mais on est libre. Voilà.
Pour terminer, Joël Thibault, quelles sont vos attentes pour Paris 2024? Parce que vous y serez.
Ah, j'y serai, Dieu seul sait si j'y serai.
A priori,
je fais partie
d'une
commission qui travaille là-dessus. Mmh. Après, je ne suis pas seul à prendre les décisions.
Alors, quelles sont vos attentes?
Mes attentes, c'est que ça soit un lieu de rencontre, de fraternité et de spiritualité, qu'il y ait une avancée en France, on prenne cette dimension holistique du sportif, que ça soit pas tabou. Ça c'est mes attentes. Et puis après, que ça soit une grande fête, mais ça, on ne sait pas, avec la crise économique et tout ce qu'il y a autour, c'est quand même pas simple.
Merci beaucoup, Joël Thibault. J'étais ravi de vous rencontrer autour de ces questions du sport, et je renvoie vraiment à votre livre « L'aumônier des champions », avec une préface d'Olivier Giroud, un livre que vous avez publié aux éditions du Cerf. Ça permet de porter un autre regard sur le sport, mais aussi sur la vie de ces grands sportifs. Merci.
Merci beaucoup.
Et merci également à RCF Rennes qui nous ont accueillis pour cet enregistrement et à Étienne Baldry qui a assuré la réalisation technique.